L'assassinat du courrier de Lyon, chapitre 2. Des gens qui ont vu, le cheval abandonné, une descente de police, arrestation de Courriol, le juge d'Aubenton. On a fort blagué, et on blague encore trop souvent les gendarmes, sans doute parce que le public ignore trop souvent non seulement tous les dangers qu'ils courent lorsqu'ils sont à la poursuite de malfaiteurs, parfois dangereux et insaisissables, mais aussi parce que ces serviteurs modestes de la loi rendent à la société des services qui ne sont pas toujours suffisamment appréciés. Il en est même parmi eux qui seraient fort capables de faire d'excellents détectives et qui, grâce à un bon sens et à une clairvoyance mise au service d'une réelle activité, sont parfaitement capables de débrouiller une énigme aussi bien que des limiers professionnels. Tel était le cas des deux brigadiers de gendarmerie, Huguet et Pomard, qui avaient été chargés par le citoyen Beau, juge de paix de Melun, de faire une enquête immédiate sur l'affaire du courrier de Lyon. Fort intelligents, pénétrés de l'importance de leur fonction, et ne négligeant rien pour accomplir le succès de la mission qui leur avait été confiée, ils allaient, en très peu de temps, réunir tout un faisceau de renseignements qui allait permettre à la justice de se lancer sur la piste des criminels. Le premier témoin qu'ils interrogèrent se nommait Jean Chartrain. C'était un très brave garçon, au service du citoyen Duclos, en qualité de postillon. Outré du sort effroyable qu'avait subi son camarade Audebert, voici ce qu'il déclara spontanément. « J'étais parti vers 6 heures du soir de Lieu-Saint conduire une voiture à 2 chevaux à Melun, lorsque, à 1/2 lieue d'ici, j'aperçus 4 hommes à cheval, bien mis, bien montés, et munis chacun d'un porte-manteau assez lourd. À mon retour, je les rencontrai à peu près au même endroit, mais ils n'étaient plus que 3 et marchaient au pas. Le 4e ne tardait pas à les rejoindre au galop. » Le second témoin interrogé fut la citoyenne Champeau, cabaretière à Lieu-Saint, qui déclara qu'elle avait vu 4 individus qui étaient descendus de cheval à sa porte et avaient bu chez elle. Après leur départ, l'un d'eux était venu chercher son sabre qu'il avait oublié dans l'écurie. Le citoyen Sureau, aubergiste dans cette localité, affirma qu'il avait aperçu les 4 cavaliers vers 7 heures du soir. La citoyenne Évrard, aubergiste à Montgeron, pour plus rapprocher de Paris, affirmait « J'ai reçu à dîner chez moi 4 cavaliers. L'un portait un habit de drap gris-bleu, un chapeau à 3 cornes. Il avait les cheveux noirs, à la jacobine. L'autre avait un habit bleu clair, un gilet blanc, un chapeau à 3 cornes, les cheveux blonds et assez longs. Le 3e, une redingote carmélite, les cheveux bruns et courts. Et le 4e, un habit gris-blanc et un sabre monté en cuivre. » La fille grosse tête, sa servante, confirma les déclarations de sa patronne et ajouta même qu'elle avait donné à l'homme en habit bleu clair un bout de ficelle pour lui permettre de raccommoder un de ses éperons dont la gourmette s'était détachée. Un marchand de fer champenoise, nommé Laurent Chabot, raconta que, parti à 11 heures du matin en carriole à un cheval, il s'était arrêté à 1 heure à Montgeron, à l'auberge de la Chasse. « Dans la même salle que moi, déclara-t-il, se trouvaient déjà installés 4 particuliers, dont 3 pouvaient bien avoir 5 pieds et 2 pouces, 1,67 m, et le 4e, 5 pieds et 4 pouces, 1,73 m. 3 portaient des bottes et l'un avait des éperons argentés. Leurs chevaux, qui étaient à l'écurie, près du mien, étaient l'un noir, l'autre blanc, les 2 derniers de la taille dragon à courte queue. L'homme qui montait le cheval noir était sans bottes et portait une houppelande à revers de poils. « Sont-ils restés longtemps à l'auberge ? » interrogeait le brigadier Huguet. « Je ne sais, » répétait Chabot. Ils étaient arrivés avant moi et sont repartis après. L'aubergiste m'a dit qu'ils étaient arrivés séparément. Deux d'abord, puis un, puis un. Leurs selles avaient des fontes et des pistolets. De quel côté sont-ils partis? Ah, du côté de Melun. Je les ai rejoints et dépassés dans le bois. Je me suis retourné plusieurs fois parce que ces quatre quidam ne me disaient rien qui vaille. Et j'ai été étonné de les voir ralentir et s'arrêter comme s'ils attendaient quelqu'un. Je ne sais rien de plus. La citoyenne Châtelain, aubergiste à Montgeron, et sa servante, la fille Santon, confirmèrent les déclarations précédentes. Un nommé Louis Muloteau déclara qu'il avait vu passer sur la route, vers 8 heures du soir, deux cavaliers, dont l'un avait un cheval gris pommelé. Et le citoyen Pinard, marchand de peau de lapin à Meaux-en-Brie, certifia qu'il s'était trouvé en présence de 4 cavaliers à la sortie de Lieu-Saint, après le bout du parc, dont l'un lui avait paru être habillé en bleu, tandis que les autres étaient en brun ou en gris. Et il ajouta qu'il avait entendu un de ceux-ci demander à 2 ouvriers « À quelle heure passe la malle-poste ? » Ceux-ci avaient répondu « Vers 7h30. » « Et les cheveux ? » interrogea le gendarme Huguet. « De quelle couleur étaient-ils ? » L'un était rouge, à courte queue. Deux autres paraissaient noirs et le quatrième était blond. La police tenait le signalement des assassins et de leur monture. C'était déjà un point acquis. Mais le juge enquêteur allait recueillir un témoignage extrêmement important, celui du citoyen Gilet, contrôleur des courriers à Paris, et qui était de service le jour du départ de la malle-poste de Lyon. Comme l'attention du juge avait été tout de suite attirée par ce voyageur mystérieux qui, parti de la cour de la rue Mellet, avait disparu aussitôt après l'attentat, il demanda au contrôleur si celui-ci ne l'avait pas remarqué. « Si, parfaitement, » répliquait le citoyen Gilet. C'était un homme d'aspect sombre, portant une redingote brune et un chapeau rond. Il n'avait apporté avec lui ni paquet, ni vivres. Il tournait autour de la malle avant d'y monter et semblait l'examiner avec intérêt. Cette déclaration, si nette, si catégorique, transforma en certitude les soupçons du citoyen Beau. Ce voyageur ne pouvait être que le complice des 4 cavaliers, et c'était lui qui avait dû voler à la malle-poste le cheval qui lui manquait pour s'enfuir à franc étrier avec ses compagnons. Enfin, le juge d'instruction de Paris entendit la malheureuse femme d'Excoffon. Tout en larmes, elle lui fit une description du voyageur qui concordait exactement avec celle du témoin précédent, et ajouta même qu'il était vêtu d'une houppelande grise bordée d'un liséré bleu foncé, c'est-à-dire en tout point semblable à celle que l'on avait découverte sur le lieu du crime. Tout cela, certes, était fort intéressant, mais insuffisant pour donner aux représentants de la justice l'espoir de promptes arrestations. Cependant, on ne tardait pas à acquérir la preuve que les assassins étaient rentrés à Paris. En effet, vers 4 heures du matin, entre Villeneuve-Saint-Georges et Maison-Alfort, un dragon en garnison à Melun trouvait sur la route un sabre sans fourreau et sans ceinturon, dont la lame et la garde était taché de sang. Quelques heures après, un petit paysan découvrait tout près de là le ceinturon et le fourreau et les remettait au brigadier Pommard. Le sabre s'y adaptait parfaitement. Mais malgré tout, l'enquête piétinait et le citoyen Beau commençait à désespérer lorsque 2 événements se produisirent qui allait permettre au magistrat non seulement de reprendre confiance, mais de mener son enquête à bonne fin. Le brigadier Huguet, qui s'en était allé continuer son enquête jusqu'à Paris, apprenait qu'un cheval sans maître venait d'être découvert à Paris aux alentours de la place royale. Ce cheval fut reconnu par Duclos, le maître de poste de Lieu-Saint, pour être celui qui avait été détaché de la malle de Lyon. Le lendemain, un agent du bureau central de la police de Paris apprenait que, le 9 Floréal, vers 5 heures du matin, quatre chevaux couverts de sueur avaient été conduits par un certain Étienne, demeurant à Paris, rue du Petit Reposoir, 200, chez l'aubergiste Aubry, rue des Fossés Saint-Germain-l'Auxerrois. Le signalement de ces quatre chevaux correspondait assez bien à celui des montures signalées par les témoins Chabot et Pinard. L'agent avait également découvert qu'à 7 heures environ, ce nommé Étienne était venu reprendre les chevaux, accompagné d'un de ses camarades nommé Bernard, et les avait conduits chez le citoyen Morin, 227, rue des Fossés Saint-Germain-l'Auxerrois, d'où ils étaient partis la veille. Le policier ne tarda pas à apprendre que cet Étienne se nommait Courriol, qu'il logeait, ainsi que nous venons de le dire, rue du Petit Reposoir, où il vivait maritalement avec une fille, Madeleine Brébant, qu'il faisait passer pour sa femme, qu'il avait découchée dans la nuit du 8 au 9 et disparu de son domicile depuis l'assassinat du courrier de Lyon. Le bureau central avait voulu savoir aussi quel était ce mystérieux voyageur. On trouva sur le registre de l'administration municipale du premier arrondissement de Paris que le 3 Floréal, un nommé Pierre Laborde, marchand de vin, natif de la Tour du Pin, était venu faire viser son passeport, qui lui avait été délivré le 10 Ventose par la municipalité de Lyon, où, disait-il, il voulait retourner. Son signalement était le suivant. Taille, 5 pieds, 2 pouces, 1,67 m. Cheveux et sourcils noirs, nez effilé, bouche moyenne, menton rond, visage ovale et gravé. Immédiatement, le juge Beau décrétait contre Laborde un mandat d'amener et ordonnait qu'une perquisition fût opérée au domicile de Courriol. Malgré les plus actives recherches, le bureau central ne parvint à découvrir qu'un Pierre Laborde demeurant 48 rue de Rohan à Paris et qui, depuis 3 mois, était à l'armée d'Italie. Mais la descente de justice chez Courriol devait être plus fructueuse. En effet, si ce dernier s'était déjà éclipsé en compagnie de sa maîtresse, on apprenait qu'ils avaient été logés pendant quelques jours, tous les deux, 27 rue de la Bûcherie, chez un sieur Richard, qu'ils y étaient restés jusqu'au 17 Floréal, s'étaient procuré un passeport pour 3, et étaient partis dans une voiture de poste que leur avait fournie un juif de réputation équivoque, David Bernard, marchand forain. Les sieurs Richard, Bernard, ainsi qu'un troisième individu nommé Bruère, avaient conduit Courriol et la fille Brébant jusqu'à Bondy, où, au lieu de suivre la route de Troyes, ils avaient pris celle de Château-Thierry, tandis que leurs compagnons réintégraient la capitale. Immédiatement, le commissaire du bureau central de Paris ordonnait l'arrestation de Richard, de sa femme et du nommé Bruère, qui parvenait à s'échapper, et il chargeait l'inspecteur de police Eudon de prendre en filature Courriol et sa compagne. Quelle ne fut pas la stupéfaction du citoyen Gaulier, employé au transport militaire à Château-Thierry, et homme paisible entre tous, lorsque brusquement, au milieu de la nuit, il fut réveillé par de violents coups de marteau que l'on frappait à sa porte, tandis qu'une voix autoritaire lançait cette parole fatidique.
« Au nom de la loi, ouvrez !»
L'excellent Gaulier crut d'abord qu'il rêvait, mais s'étant mis à sa fenêtre, il aperçut devant sa maison plusieurs personnes, parmi lesquelles se profilaient des silhouettes de gendarmes.
« Qui est là ? »
demanda-t-il d'une voix angoissée.
« Je suis le citoyen Mougin. »«
Le juge de paix ?»«
Oui. Allons, citoyen Gaulier, ouvrez !»
L'employé au transport, se demandant ce que la justice pouvait bien demander de lui à pareille heure, s'empressa de descendre au rez-de-chaussée et d'ouvrir sa porte toute grande au serviteur de la loi qu'il fit pénétrer dans sa demeure. Le juge de paix lui présenta aussitôt l'inspecteur de police Eudon, l'officier de police judiciaire Aubry et le lieutenant de gendarmerie Guillot, qui portaient chacun un falot. Un gendarme était resté de faction près de la porte, avec ordre de ne laisser sortir personne. « Citoyen, demandait le juge de paix à Gaulier, n'avez-vous point chez vous des personnes étrangères à votre famille ?»«
Si fait, citoyen, j'ai mon ami Guénaud, préposé au transport militaire de Cambrai et de Douai. Il s'est arrêté ici en venant de Paris.
Quel est son signalement ?»«
C'est un homme d'une trentaine d'années, grand, 5 pieds 4 ou 5 pouces, le front haut, au visage ovale, aux yeux bleus, au nez mince, aux lèvres épaisses, à la barbe et aux sourcils châtains et aux cheveux déjà grisonnants.
Pas de signe particulier ?
Si, très fortement marqué de petites véroles.
Ce n'est pas le citoyen que nous cherchons.
Vous ne logez personne d'autre ?
Si, un ami et sa femme, qui viennent aussi de Paris.
C'est un nommé Étienne, que j'ai rencontré il y a quelques mois chez des amis, et qui se rendant en Champagne, s'est arrêté chez moi en passant.
Où avez-vous fait sa connaissance ?
À Paris, chez le citoyen Richard.
Il m'a dit qu'il comptait prochainement se rendre à Reims pour y acheter du vin. Et comme il me faisait part de son intention de passer par ici, je ne pouvais faire autrement que de l'inviter à descendre chez moi.
Où se trouve le citoyen pour le moment ?
Il est en haut, dans sa chambre, et doit dormir.
Conduisez-nous près de lui.
Gaulier, qui commençait à regretter amèrement d'avoir si bénévolement accordé l'hospitalité à un homme que, somme toute, il avait vu à peine, s'empressa de conduire le juge de paix et sa suite jusqu'à la chambre de son hôte.
« C'est ici, » dit-il,
en désignant au juge une porte qui se trouvait au fond du couloir. Brusquement, le citoyen Mougin y pénétrait avec les autres personnages. Réveillé en sursaut, Couriol se dressa sur son séant, tandis que sa maîtresse, une jeune fille de 20 ans, tout effarée à la vue de ces gens munis de falots et à l'aspect plutôt sévère, se réfugiait dans ses bras.
« Que signifie cette plaisanterie ? »
s'écriait Couriol avec un fort accent méridional.
« Allons, laissez-nous dormir !»
Gaulier, d'une main tremblante, allumait quelques chandelles et l'inspecteur Eudon, s'avançant vers le lit, interpellait d'une voix rude.
« Vous vous appelez bien Couriol Étienne, et c'est bien vous qui demeuriez récemment à Paris, 200 rue du Petit Reposoir ?»«
Oui, citoyen. » »«
La femme qui est à vos côtés, eh bien la fille Brébant, votre maîtresse. »
Et sans même donner à son interlocuteur le temps de lui répondre, l'inspecteur déclarait.
« Citoyen, je vous arrête, ainsi que cette fille.
Pourquoi ?
Vous le savez aussi bien que moi. »
« Certes non, »
répliquait Couriol le plus tranquillement du monde.
« Mais je suis prêt à vous suivre, car je suis bien convaincu que vous ne tarderez pas à reconnaître que vous avez commis une erreur. »
Et comme Madeleine Brébant, tout en pleurant, s'accrochait désespérément à son amant, Eudon s'écriait
« Allons, habillez-vous promptement !»
Et tout de suite, il donnait l'ordre à l'officier de police judiciaire de fouiller les meubles de la chambre, ainsi que les vêtements et les bagages des deux voyageurs. On découvrait aussitôt que Couriol et la Brébant avaient en leur possession 1528 livres en argent, 1680 livres en espèces d'or, 1 142 200 en assignats, 42 025 livres en inscriptions, et enfin une grande quantité de bijoux d'or et d'argenterie. Aucun doute n'était possible. On tenait un des assassins. Eudon décida de diriger immédiatement sur Paris Couriol et la Brébant dans la chaise de poste qui les avait amenés à Château-Thierry. Bien qu'il soupçonnât Gaulier et Guénaud d'avoir trempé dans cette affaire, tenant compte de leur honorabilité jusqu'alors certifiée et de leur aisance personnelle, il les invita simplement à se rendre au plus vite dans la capitale. Les deux employés au transport, de la meilleure grâce du monde, prirent place dans la chaise de poste que le juif Bernard avait fournie à Couriol. Le jour même, Eudon se présentait au bureau central avec ses deux prisonniers, qui étaient immédiatement incarcérés, et remettait tout l'argent et toutes les valeurs qu'il avait saisies dans les bagages et les effets des deux prisonniers. Aussitôt, une perquisition était opérée chez le sieur Richard qui, ainsi que sa femme, était déjà sous les verrous, et l'on plaçait sous scellé les papiers de Guénaud trouvés dans la chambre qu'il occupait chez ses gens chaque fois qu'il venait à Paris. Cette capture était un véritable succès pour la police parisienne. Mais il n'en revenait pas moins une bonne part aux magistrats de Melun et aux brigadiers de gendarmerie Huguet et Pommard qui, grâce à la rapidité avec laquelle ils s'étaient mis en campagne et à l'habileté dont ils avaient fait preuve au cours de leur première enquête, avaient singulièrement facilité la tâche du bureau central. Malgré cela, le 21 Floréal, le commissaire du dit bureau dessaisissait le juge de Melun et chargeait le citoyen Daubenton, juge de paix de la section du Pont-Neuf, de procéder à l'instruction de l'affaire du courrier de Lyon. Le citoyen Daubenton, qui était appelé à jouer dans l'affaire du courrier de Lyon un rôle destiné à rendre son nom célèbre, puisqu'il n'est pas oublié de nos jours, était un magistrat actif, sévère et perspicace. Il ne considérait pas ses fonctions comme un métier, mais comme une sorte de sacerdoce. S'efforçant toujours d'être impartial, il procédait dans toutes ses enquêtes avec ordre et méthode et, avant de prendre une décision, ne laissait jamais rien dans l'ombre. Avant d'interroger les inculpés, il commença par s'assurer que les assignats saisis par l'inspecteur Eudon étaient bien ceux que la Trésorerie nationale avait remis à l'administration des postes. Le citoyen Mailleux, garçon de caisse, et son collègue Rousset reconnurent 10 assignats de 1000 livres qui portaient la marque 10, B 100 000 et X. La lettre X et le paraphe qui la suivait étaient de l'écriture de Mailleux. La conscience de Daubenton fut aussitôt en repos. Couriol était bien un des assassins. Le juge examina ensuite les papiers de Guénaud que l'on avait découverts chez Richard et, désireux de ne pas perdre une minute, il fit citer à son cabinet tous les témoins qui avaient déposé lors de l'enquête faite sur l'ordre du juge de paix de Melun. Le sieur Guénaud fut convoqué par lui le premier. Daubenton lui posa tout de suite la question suivante. « Je voudrais connaître les motifs de votre présence chez Richard et chez Gaulier. » Le plus naturellement du monde, Guénaud répliquait. « Je suis commissionnaire en transport. J'ai eu à faire passer de Douai à Paris, pour le compte de l'agence monétaire, 3 caisses d'argenterie qui avaient été volées par un voiturier. Alors, attaqué en garantie, je me suis mis à la poursuite de mon voleur. Je suis venu à Paris et j'ai accepté l'hospitalité que m'offrait Richard, qui est un de mes pays. Appelé à Château-Thierry pour affaires, j'ai été logé chez le citoyen Gaulier, qui non seulement est mon compatriote, mais exerce la même industrie que moi. D'ailleurs, citoyen Daubenton, je puis vous prouver que ma situation matérielle est plutôt florissante. Avec une franchise parfaite et une minutie de détails qui ne pouvait que favorablement impressionner celui qui l'interrogeait, il établit devant lui, d'une façon indiscutable, que sa probité inattaquable, en plus de ses ressources personnelles, rendait invraisemblable sa participation dans un crime qui ne pouvait que lui inspirer la plus profonde horreur. Daubenton, sur lequel Guénaud avait fait une excellente impression, déclara à celui-ci qu'il le mettait hors de cause, ainsi que Gaulier, dont les explications avaient été aussi satisfaisantes que celles de son ami, et il dit à ce dernier de revenir le lendemain reprendre ses papiers. Daubenton fit venir Couriol, qui n'avait rien perdu de son aplomb. Couriol était un homme jeune, élégant, la mise recherchée d'un incroyable, au front étroit et haut, en partie couvert par les cheveux noirs ainsi que par les favoris courts qui encadraient ses joues plates. Le visage, au nez long, aquilin, pointu et marqué d'une cicatrice, au menton pointu et à fossette, aux yeux très sombres, était plutôt étrange. « Votre nom ?» interrogeait le juge enquêteur.
Je me nomme Couriol. Je suis né à Avignon. Votre âge, 23 ans. Votre domicile, à Paris, rue du Petit Reposoir, numéro 200. Quel jour êtes-vous parti de Paris ?
Le 17 Floréal.
Quel motif donnez-vous à votre départ ? Où alliez-vous ?
À Troyes, en Champagne, pour mon commerce.
Quel commerce ?
La bijouterie, la mercerie et les vins.
Est-ce à votre compte ?
À mon compte et en mon nom.
Avez-vous votre patente ?
La voici,
fit Couriol en tirant de sa poche la pièce réclamée par Daubenton. Celui-ci l'examina et fit observer « Cette patente, délivrée au bureau de l'enregistrement établi à Paris, section de la Halle aux Blêdes, n'est que pour faire le commerce de mercerie en détail en chambre.
C'est tout ce que j'ai.
On a trouvé dans votre portefeuille en maroquin rouge 1 170 460 livres en assignats et promesses de mandat. Comment possédez-vous une pareille somme ?
Citoyen, c'est toute ma fortune.
Daubenton poursuivait, implacable. Dans le coffre de la voiture qui vous emmenait à Château-Thierry, on a découvert une cafetière, 10 tasses, une cuillère à soupe, une à ragoût et 10 à bouche, 6 timbales. 2 grands gobelets à pied, tous en argent neuf, plus une paire de pistolets demi-arçon, environ 1 livre de poudre à tirer, 1 sabre, son fourreau et son ceinturon. Comment expliquez-vous la présence de ces objets dans vos bagages ?
C'était des marchandises que je cherchais à écouler.
Où les aviez-vous achetées ?
À un homme que j'avais rencontré à Paris, près de la barrière des sergents.
Son nom ? Et son adresse ?
Je les ignore, car il s'est refusé à me les donner.
Daubenton, comprenant que Couriol n'était pas encore mûr pour les aveux, mit fin à cet interrogatoire et le fit renvoyer dans son cachot. Puis, il fit amener Madeleine Brébant en sa présence. C'était une jeune femme de taille moyenne. Elle avait les cheveux châtain clair, presque blonds, et des yeux gris-brun assez expressifs. Vêtue elle aussi avec une certaine élégance, elle donnait l'impression d'une fille de mœurs légères. Pour l'instant, elle semblait complètement désemparée. Le juge, tout en l'enveloppant d'un regard pénétrant, se dit « Je crois que si elle sait quelque chose, je ne tarderai pas à l'apprendre. » Et il commença.
« Votre nom, votre âge, votre profession ?»
Plus qu'intimidée, douloureuse, la maîtresse de Couriol répondit cependant sans se faire prier. « Je m'appelle Madeleine Brébant. J'ai 20 ans. Je suis née à Pontoise, où mon père est cordonnier.
Êtes-vous mariée avec Couriol ?
Non, citoyen. Il y a 10 mois que je suis avec lui.
Que faisiez-vous auparavant ?
J'étais domestique chez mon oncle Aubert, qui demeure rue des Vieilles Étuves, Saint-Honoré.
Avant votre départ pour Château-Thierry, Couriol et vous, n'avez-vous pas quitté votre domicile de la rue du Petit Reposoir ?
Oui, citoyen. Nous avons logé pendant 8 jours chez un ami de Couriol nommé Richard, qui demeure derrière l'Hôtel-Dieu, dans une rue dont j'ai oublié le nom.
Quelle est la profession de Couriol ?
Il est marchand de toile, de bijoux.
Comment l'avez-vous connu ?
Je l'ai rencontré en me promenant.
Couriol,
n'a-t-il pas découché une nuit ou deux avant d'aller chez Richard ?
Oui, citoyen, il a découché la nuit du 9 au 10.
Vous a-t-il dit où il allait ?
À la campagne.
Quels étaient les amis de Couriol ?
Ah, je ne puis vous le dire, citoyen, car je n'ai été avec lui que très rarement chez Richard. Il y avait là des particuliers que je ne connaissais pas. Il en est venu parfois chez Couriol, qui, alors, m'éloignait.
Avait-il beaucoup d'argent ?
Oh, citoyen, il en avait toujours assez, mais je ne lui en ai jamais tant vu qu'avant notre départ pour Château-Thierry.
Pouvez-vous nous dire quel costume portait Couriol au commencement de ce mois ?
Je ne puis rien affirmer, car il en changeait souvent. Je crois cependant qu'il portait à cette époque un habit bleu avec bouton d'acier sur fond blanc, dans le milieu, un pantalon de peau, un gilet rouge brodé, des bottes et un chapeau à trois cornes avec ganse d'or. Lors du voyage dont vous m'avez parlé, Kouriol a-t-il été longtemps absent ?
Mais il est parti un jour le matin et n'est revenu que le lendemain matin, vers 11 heures.
N'a-t-il rien rapporté ce jour-là ?
Rien, citoyen.
Il n'a jamais rien rapporté à la maison.
Que des cravates, quelques écus de 6 livres, quelques louis. Mais je n'ai jamais su d'où cela provenait.
Bien, déclarait le juge.
Nous en resterons là pour aujourd'hui.
Ainsi qu'il le prévoyait, les déclarations de Madeleine Bréban, faites sur un ton de sincérité indéniable, nous dirons même, avec une ingénuité stupéfiante de la part d'une fille qui n'était pas précisément un modèle de vertu, achevaient d'accabler Kouriol aux yeux de Daubenton. Mais il ne suffisait pas à cet excellent magistrat de tenir un seul coupable. Il lui fallait les 4 autres. Il allait les chercher.